Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le commissaire européen à l'industrie, le français Thierry Breton, a présenté aujourd'hui la stratégie industrielle de l'Europe élaborée par la nouvelle commission européenne pour son mandat. Et c'est un petit événement parce que l'expression politique industrielle fleure un peu les 30 glorieuses et l'état stratège français et moins la libre concurrence associée à l'Europe. Mais plusieurs événements sont venus changer la perception. Le refus à Bruxelles d'une alliance Alstom-Siemens dans le ferroviaire face aux géants chinois, par exemple, ou encore tout récemment les craintes sur l'approvisionnement du continent européen en provenance de Chine avec la crise du coronavirus. Comment réindustrialiser ou industrialiser l'Europe? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Anaïs Voigilis, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique et consultante. Vous êtes co-auteur avec Olivier Luancy du livre « Vers la renaissance industrielle » qui est à paraître le 8 avril prochain aux éditions Marie B. Et Rémi Bourgeot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et vous êtes spécialiste de l'économie européenne. D'abord, une précision peut-être, c'est peut-être un biais ou un point de vue français, une tendance à la tertiarisation, à la perte de nombreux emplois industriels depuis des années qui nous fait voir les choses comme ça. Mais l'Europe de 27, est-ce qu'elle reste aujourd'hui une région économique et géopolitique où l'industrie reste importante, Anaïs Voigilis?
Alors les situations en Europe, elles sont très diversifiées en fonction des pays que vous regardez. Par exemple, on sait que l'Allemagne est la locomotive industrielle de l'Europe, mais parce que c'est un pays qui a fait le choix de maintenir une politique industrielle et une stratégie industrielle ambitieuse dans le tournant des années 80-90. Si vous prenez le Royaume-Uni, c'est un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Et après, vous avez plein de situations différentes. Si je regarde l'Europe de l'Est, aujourd'hui, c'est encore des pays qui sont très industrialisés. L'Italie reste un pays industriel, mais il est vrai que dans tous ces pays, malgré des ambitions industrielles, il y a toujours un recul du poids de l'industrie. Ceci dit, il faut préciser que l'Europe reste la première puissance industrielle au monde.
C'est la question que j'allais vous poser, Rémi Bourgeot. La part de l'industrie dans le PIB européen, elle est en baisse, mais ça reste quand même très important par rapport aux autres grandes régions mondiales.
Alors, à l'échelle de l'ensemble des pays développés, il y a eu un phénomène de désindustrialisation profonde au cours des 50 dernières années. Alors, effectivement, la situation varie beaucoup d'un pays à l'autre et d'une zone à l'autre, mais c'est vraiment un phénomène profond. Et alors effectivement, on a des disparités en Europe, mais sur la base de déséquilibres aussi qui se sont creusés autour de cette locomotive européenne. Donc évidemment, il y a des stratégies de maintien de l'industrie, au contraire d'autres pays qui ont plutôt tendance à rejeter même cette notion qui y revienne. Et aujourd'hui, effectivement, l'Europe reste une puissance industrielle, mais elle est remise en cause sur un certain nombre de secteurs d'innovation de pointe, et c'est notamment le cas en Allemagne. Aujourd'hui, on a une véritable crise du modèle industriel européen qui a beaucoup reposé sur l'abaissement des coûts salariaux au détriment peut-être d'une vision plus ambitieuse sur l'innovation et l'adaptation technologique.
Oui, Anaïs Voigilis, c'est nouveau cette volonté d'avoir une stratégie ou une politique industrielle à l'échelle des 27, à l'échelle de l'Union européenne?
Je crois que la première chose qu'il convient de rappeler, c'est que la politique industrielle, au départ, c'est dans le giron des États. Et ce qui est dans la compétence exclusive de l'Union européenne, c'est la politique de la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément eu d'ambition industrielle européenne pendant longtemps. Par ailleurs, on est dans un jeu où, au sein de l'Union européenne, on a quand même une concurrence entre les États. À la fois un dumping fiscal avec qui aura le plus bas taux d'impôt sur les sociétés, mais aussi un dumping social. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que cette politique revient? C'est comme c'était dit précédemment, parce qu'on a une évolution du contexte géopolitique avec des rivalités entre la Chine et les États-Unis où l'Europe se retrouve en étau, des questions de souveraineté technologique, notamment sur les batteries pour les voitures électriques, sur l'intelligence artificielle, etc. Et le leadership allemand, le leadership industriel allemand, qui est aujourd'hui remis en cause assez fortement par différents éléments, l'arrivée de grands acteurs du numérique qui viennent un peu bouleverser les modèles économiques classiques. C'est le tassement de la consommation en Chine qui fait que l'Allemagne ne peut plus exporter ses produits phares, enfin, exporte moins ses produits phares que sont l'automobile et la machine outil. Et donc, face à cette situation qui touche fortement le cœur industriel allemand, l'Allemagne commence à se tourner vers l'Europe. Mais il convient de rappeler deux choses. C'est que quand il était question auparavant de mise en place de réciprocité dans l'accès au marché public, qui s'y opposait ? Des États membres, pas la Commission européenne, au premier lieu l'Allemagne, parce qu'elle craignait que ça remette en cause ses relations avec la Chine. Quand il y a eu des questions de contrôle des investissements étrangers, en général, ce sont toujours les États membres qui s'y opposent. Et aujourd'hui, si l'Allemagne réagit, parce que c'est un peu le moteur avec la France dans cette volonté de créer une politique industrielle européenne, c'est parce que l'Allemagne voit ses intérêts nationaux touchés, pas du tout parce qu'il y a une conscience européenne.
Rémi Bourgeot, vous diriez que le point de vue a changé, que la libre concurrence n'est effectivement plus l'alpha et l'oméga de la Commission. On voit un peu au-delà de ça ?
Oui, il y a quand même une prise de conscience des enjeux industriels mondiaux. Alors, ça fait quand même un certain temps qu'on voit la thématique de la réindustrialisation dans les discours européens depuis, disons, le milieu des années 2000, et on voit les mêmes termes réutilisés, mais ils ont effectivement changé de sens, et il y a une urgence beaucoup plus grande, effectivement liée en particulier à la crise du modèle industriel allemand, avec notamment une déception du leadership allemand vis-à-vis du marché chinois. C'était vraiment le grand pari autour de 2010, cette focalisation sur le marché chinois et évidemment une déception sur la question de la réciprocité dans l'accès au marché chinois, des interventions, des investissements chinois vus comme hostiles dans des entreprises technologiques clés en Allemagne, notamment dans le secteur robotique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un intérêt beaucoup plus grand pour la question de la défense de l'industrie européenne et en Allemagne, évidemment, de l'industrie allemande. Donc ça, c'est un pan très important. Et vous parliez effectivement de politique de la concurrence. Alors, il y a eu effectivement ce rejet de la fusion Alstom-Siemens qui a beaucoup fait parler, mais c'est aussi directement lié à cette question-là. Donc, on invoquait l'enjeu de créer des grands champions européens, donc dans le secteur ferroviaire en l'occurrence, mais de nombreuses voix menées par la commissaire européenne Margrethe Vestager s'y sont opposées en disant en gros qu'on ne pouvait pas simplement fausser les règles de la concurrence, mais en fait de l'innovation en Europe, simplement pour s'adapter aux règles du marché chinois et notamment aux subventions massives que reçoivent ces entreprises.
Il y a un problème de droit. Est-ce qu'il faut changer le droit européen de la concurrence pour favoriser la création de champions européens ? Ça vous paraît possible, Anaïs Voigilis ?
Changer le droit ou changer l'interprétation ? Aujourd'hui, c'est une interprétation très stricte du droit de la concurrence qui est faite. Et pour revenir sur le cas Alstom-Siemens, c'est une question d'interprétation du marché. On a pris le cadre européen pour considérer le marché. On a exclu la Chine, le Japon et la Corée de cette interprétation. Demain, on considère que la zone de concurrence, elle est internationale. On prend en compte les subventions chinoises, etc. On peut avoir une évolution du positionnement. Alors, bien entendu, il faut conduire des réformes des institutions européennes et du droit européen, mais je crois que déjà une évolution d'interprétation, et on va avoir deux très beaux cas qui vont se présenter cette année avec le cas des chantiers de l'Atlantique avec Fincantieri et le cas Bombardier Alstom,
oui.
Qui vont voir s'il y a vraiment eu un acte pris par la Commission européenne et le besoin de faire évoluer ce droit de la concurrence, ou si on est sur toujours les mêmes choses. Et ça va être l'affrontement entre le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, et droit à la concurrence.
Oui, Rémi Bourgeot.
Sur le sujet d'Alstom, je pense que Bombardier, c'est quand même de nature assez différente, parce que ça ne créerait pas une telle concentration, le type de concentration qui aurait lieu avec une fusion avec Siemens, où là vraiment on aurait eu un poids écrasant.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça va passer plus facilement, a priori.
Oui, alors ça contredit beaucoup moins l'idée de maintenir une concurrence que le projet Alstom-Siemens. Il faut voir quand même que cette notion de champion européen apparaît pour certains quand même un peu dépassée. On invoque sans arrêt la question d'un Airbus appliqué à tel ou tel secteur. l'aéronautique est quand même un secteur très particulier avec une concurrence limitée.
Les fusions, donc on le voit, ne sont pas évidentes, elles sont parfois difficiles. Est-ce qu'il faut partir de zéro et créer de nouvelles entités? Est-ce que ça peut être une partie de la solution, Anaïs Voigilis? C'est pas facile de créer un champion ou un géant à partir de zéro.
C'est pas forcément aux États ou à l'Union européenne de décider ça. Alors après, c'est une vision peut-être très libérale, mais en tout cas, si champion doit émerger, il émergera. Charge aux institutions européennes de ne pas le bloquer. Mais ça, c'est le marché qui en décidera.
Ouais, bah, Je pense que ce qui est essentiel, c'est vraiment de se baser sur les compétences qui existent déjà. Donc, on peut imaginer de nouvelles structures, mais c'est quand même très, très hasardeux dans un grand nombre de cas. On le voit même dans le cas de fusion, où on est censé lier des compétences existantes et créer des synergies. Et parfois, on arrive à des sortes d'usines à gaz bureaucratiques. Donc, vraiment, l'essentiel, c'est de préserver les compétences. Et c'est peut-être là vraiment que la politique industrielle à pêcher. Quand l'État a eu tendance à s'impliquer, notamment en France, ça a été plutôt dans le sens d'imposition d'une vision bureaucratique, d'une direction technologique fixée en haut, sans vraiment prendre en compte les compétences et en mettant les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers au centre de ces projets.
Il faut définir des secteurs stratégiques. Alors on a entendu parler de l'Airbus des batteries, de la 6G, de la transition écologique dans les transports. Est-ce qu'il faut raisonner par secteur comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïs Voigilis?
Alors, moi, je suis une... on parle d'écosystème qui peut être intéressant si on prend en compte tous les acteurs. En France, on a la politique de la filière, à laquelle j'ai du mal à croire. La filière, ça marche quand on parle de l'aéronautique, parce que vous avez un donneur d'ordre massif qui est Airbus. Ça peut éventuellement marcher dans l'automobile, mais ce n'est pas des choses qui ont fait preuve de leur efficacité. Par ailleurs, on risque d'être dans une sorte de catalogue. C'est-à-dire, on a 20 écosystèmes et on donne un peu d'argent à chacun. Je pense qu'il faut plutôt soutenir de grandes politiques. On parlait d'innovation tout à l'heure. L'innovation, parce que pour venir à la bataille des coûts, l'innovation est ce qui peut permettre à l'industrie européenne de se différencier. On a intérêt à miser sur une innovation technologique et non technologique et pas forcément sur des secteurs qu'on va décider stratégiques par rapport à d'autres. On a vu que jusqu'à présent, ça n'avait pas été forcément les politiques les plus efficaces.
Comme le dit Anaïs Voigilis, il faut, pour une stratégie de réindustrialisation, est-ce qu'il faut nécessairement l'allier à s'adapter à des écosystèmes qui existent, localisés dans une seule et même région, je sais pas moi, la Chine dans la vallée du Rhône, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut, il faut s'adapter à l'existant, Rémi Bourgeot.
Le risque quand on suit une vision de politique industrielle, vraiment une vision politique au sens étatique, c'est évidemment de se tromper. Bon, c'est ce qui a été le cas en France avec l'informatique dans les années 70. Il y avait vraiment un leadership fort, mais un peu à côté de la réalité technologique. Et, alors, évidemment, le rôle de l'État, de la politique est important, mais il faut évidemment laisser les compétences réelles s'exprimer. Et pour ça, il faut évidemment qu'il y ait aussi une culture technologique dans les milieux étatiques, dans les milieux politiques. Et ça s'est énormément perdu un peu partout en Europe et de façon quand même assez sévère. En France, c'est pas le pire des cas. C'est aussi le cas au Royaume-Uni avec la focalisation sur la finance, en Allemagne aussi d'une certaine façon. Mais il faut qu'il y ait une culture technologique dans les milieux politiques et surtout se baser sur les compétences existantes sans nécessairement déclarer des causes prioritaires qui soient éventuellement décalées de la réalité. Alors c'est encore plus difficile au niveau européen puisque les États n'ont pas la même vision, n'ont pas non plus les mêmes intérêts. Donc parler d'une politique industrielle européenne, c'est déjà un sujet difficile. On a des différences énormes et des déséquilibres considérables entre pays européens. L'Allemagne quand même a joué sa propre carte par l'abaissement des coûts, par l'intégration dans ses chaînes de production de l'industrie de la plupart des pays d'Europe centrale. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette question de la désindustrialisation liée au déséquilibre à l'intérieur de l'Union européenne.
On peut imaginer une relocalisation de ce qui est déjà produit en Asie, ou est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante, le passer par pertes et profits et favoriser la création d'entreprises européennes sur des secteurs d'avenir ou en fonction de ce qui existe en Europe? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Anaïs Voigilis? Est-ce qu'on peut refaire revenir ce qui a été délocalisé?
Non, alors, c'est compliqué comme réponse parce qu'il y a des choses qui vont être relocalisées. En France, parce que il y a un intérêt stratégique à le faire, parce qu'aujourd'hui la modernisation des sites industriels permet d'abaisser quand même en partie les coûts de production, que si demain on commence à vraiment taxer les coûts du transport comme ils se doivent, qu'on commence à intégrer d'autres indicateurs comme le coût carbone, etc., il va devenir intéressant de reproduire en Europe. Mais tout ce qui est produit en Asie aujourd'hui, à destination des marchés asiatiques, ne reviendra jamais en Europe. Par ailleurs, je pense qu'il y a, certains grands sites, je pense notamment les usines Foxconn de production de semi-conducteurs, etc. Ce type de production, je peine à croire que ça revienne en Europe pour une production très régionalisée. Donc on va avoir, à mon avis, un schéma industriel avec trois grands types d'usines, des sites à vocation mondiale, des sites plutôt régionaux très automatisés, et voire des unités de production miniatures presque sur le lieu de consommation. On avait Adidas avec la Speed Factory, donc qui est partie en Chine, donc c'est plus forcément un bon exemple, mais c'est que par exemple l'entreprise Salomon en France réfléchit à développer des unités de production qui prêtent directement sur les magasins de sport, dans les magasins de sport, pour faire des chaussures répondant parfaitement aux besoins des individus. Mmh. On a la même chose dans la cosmétique avec L'Oréal aussi.
La crise liée au coronavirus en Chine, Rémi Bourgeot, elle a révélé quoi ? Une forme de dépendance de l'Europe, le risque de ne plus voir alimenter des chaînes de production ?
Bon, tout le monde était quand même assez conscient de cette chose-là, mais disons que ça a libéré la parole et la pensée à ce sujet. On voit que c'est déjà un sujet capital en termes d'équilibre, de développement économique, mais aussi en termes d'autonomie, en termes de gestion des risques. Donc c'est là vraiment que du coup le débat se libère quelque peu sur cette question-là. Simplement pour réagir sur la question de la relocalisation, je suis assez largement d'accord. Je voudrais simplement souligner l'impasse aussi dans laquelle on se place quand on accepte des délocalisations massives et sur une telle durée, puisqu'on n'arrive plus non plus à penser les processus de production dans un cadre différent et ne reposant pas simplement sur des coûts extrêmement bas en termes de main-d'œuvre. Donc évidemment, on se pose la question de la robotisation. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne va pas pouvoir tout rapatrier d'une certaine façon, mais la robotisation, quand même, nouvelle technologie, ouvre quand même des portes assez importantes, notamment dans une demande de flexibilité en termes d'offres, plus adaptées aux besoins des consommateurs, et évidemment, comme vous le disiez, en redéfinissant le marché, évidemment, en ce qui concerne les coûts du transport et la protection vis-à-vis des pratiques des États comme la Chine.
Oui, Anaïs Vogelis, vous parliez de produire davantage localement. Est-ce que justement cet objectif n'est pas en ligne avec le pacte vert qui est proposé par la Commission? Ça fait partie d'un ensemble? Tout ça a été pensé en même temps?
Oui, ça fait partie en tout cas de la volonté de Thierry Breton de favoriser cette émergence d'une nouvelle politique industrielle. Maintenant, je pense qu'il va falloir aller plus loin dans les ambitions et plus vite, et surtout le faire en concertation avec les industriels, parce que aujourd'hui ils font partie des premiers pollueurs, mais ils font aussi partie des gens capables d'apporter des solutions. Et on a des industriels qui sont de très beaux exemples de ce qu'on peut faire en termes de préservation de l'environnement et de prise en compte de ces enjeux. Donc c'est eux qu'il faut, à mon avis, solliciter en premier lieu, même si la politique publique est toujours un bon accompagnement.
Tout ça nécessite des investissements importants et donc de la subvention. Est-ce que ça va forcément susciter des tensions commerciales avec les autres grands ensembles, Chine et États-Unis, Rémi Bourgeot?
Les tensions commerciales, on peut dire qu'elles sont déjà là.
Oui, oui. Mais est-ce que ça va aller
Le débat, c'est largement ouvert. Donc ensuite, il faut voir qu'il y a vraiment des rapports de force qui s'exercent. Le pavé est dans la mare. Donc évidemment, il y a des priorités liées aussi à la politique américaine. Par exemple, Donald Trump s'est beaucoup plus focalisé sur la Chine que sur l'Europe. Ensuite, s'il était réélu, il se focaliserait aussi un moment sur l'Europe. Le message commence à passer quand même entre l'Europe et la Chine. Donc le débat est quand même très largement entamé. Et en ce qui concerne les règles d'investissement, on voit bien la nécessité de recréer quand même un équilibre, puisque les règles ne sont pas du tout les mêmes entre des économies comme la Chine, entre l'Union avec l'Union européenne, évidemment.
Merci Rémi Bourgeot, merci Anaïs Vogelis d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnaud Lasseva à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité